Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Bonjour Alain.
Bonjour Karim Haïda. Alors je suis très content d'accueillir un académicien puisque vous êtes le président fondateur de l'Académie de la cuisine arabe.
Tout à fait. Alors c'est beaucoup dire parce que c'est une académie qui est encore en gestation. Mais c'était un projet qui me tenait à cœur, qui me tient toujours à cœur. Et on prend le temps de la monter petit à petit parce que c'est le projet d'une vie. Et j'espère avoir encore de longues années pour mener ce projet à son terme.
Alors, Karim Haïdar, vous êtes un chef libanais à Paris. Vous vous intéressez à mélanger toutes les influences du monde arabe. Et ce que je vous propose, c'est de faire un voyage autour de la Méditerranée en partant du Levant jusqu'au couchant. Comment dit-on le Levant en arabe ?
Le Levant en arabe, c'est le Mashriq. Et effectivement, pour moi, dans la cuisine du monde arabe, ça démarre un petit peu dans le golfe dit arabique ou persique, suivant l'endroit d'où on se place. Et puis, le voyage est effectivement très, très beau, jusqu'à l'autre partie, c'est-à-dire l'endroit où le soleil se couche. Et là, en fait, c'est un mot qu'on connaît même en français, puisque ça se dit Maghreb, qui est le Maghreb, en fait, tout simplement. Et qui montre bien que c'est là où le soleil se couche, puisque c'était quand même la limite des territoires connus avant de découvrir l'Amérique.
Karim Haïdar, si l'on fait ce voyage, est-ce qu'il y a un mot qui unifie l'alimentation dans ce pourtour méditerranéen, dans ce Mare Nostrum ?
Le mot qui signifie vie, c'est-à-dire l'aïch, puisque j'ai retrouvé ce mot en étudiant. Pour moi, l'étude des cuisines du monde arabe est relativement récente, puisque pendant 10 à 15 années, j'ai pratiqué la cuisine libanaise sans trop m'intéresser à ce qu'il y avait autour. Et c'est en découvrant récemment ces cuisines que j'ai découvert ce mot qui se retrouvait très souvent, aïch, qui veut dire la vie, et qui représentait, suivant les pays, l'élément de base, l'élément primordial des cuisines, en fait, l'élément qui permettait de survivre et de vivre. Bien entendu, on pense tout de suite, comme en France à une époque, c'était le pain, aujourd'hui ça l'est plus trop, mais donc il y a le pain dans certaines régions, et il y a d'autres produits, et suivant qu'on aille justement de l'Orient, jusqu'à la partie la plus occidentale du monde arabe, eh bien, ce mot aïch va raconter des produits différents, mais qui sont les produits essentiels de cette cuisine.
Si l'on commence notre dégustation vers le Moyen-Orient, quel est le symbole de la vie ?
Je n'ai pas connaissance qu'on appelle aïch un quelconque produit, sauf peut-être en Égypte, où le aïch représente le pain. Donc là, on est vraiment dans la tradition. Dans nos pays, on n'a pas trop ça. Mais il y a un produit qui est véritablement le produit de base de nos cuisines. C'est le bedrol ou boulgour, qu'on appelle boulgour, qui est en fait du blé concassé, étuvé pour être conservé, qui se retrouve soit gros, soit fin, soit entier, soit blanc, c'est-à-dire sans la pellicule extérieure. Et je pense que c'est le produit de base de nos cuisines. Alors je dirais encore plus de la cuisine dont je suis issu, qui est la cuisine libanaise, puisqu'il se retrouve dans deux éléments, surtout dans sa version fine, c'est-à-dire le bedrol fin, parce que le bedrol gros, on le retrouve même en Turquie, on le retrouve un peu partout. Mais le fin, on le retrouve essentiellement dans deux plats, le kebbé et le taboulé, qui sont tous les deux très emblématiques de mon pays ou de ma région. Et je dis de ma région parce que je considère que les frontières, surtout les frontières dans nos pays, qui sont des frontières totalement artificielles, n'ont pas beaucoup de sens culinairement parlant. Les limites dépendent bien sûr, comme partout, du terroir, du passage des hommes, et très rarement des découpages au ciseau, des cartes entre les grandes puissances.
Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire le Québec? Et alors, ce qui est très radiophonique, c'est d'en faire un devant le micro.
Oui, alors le Québec, c'est sans doute le plat le plus symbolique pour moi du Liban et d'une partie de la Syrie, d'une partie de la Palestine. Donc c'est ce que j'appelle justement cette régionalité qui s'étend bien au-delà des frontières. Symbolique pourquoi? Parce que tout le monde mange du Québec dans cette région, du plus pauvre au plus riche. Et quelque part, c'est un ciment social. Le matin, quand vous vous rencontrez et que vous racontez votre repas de la veille, tout le monde peut dire « j'ai mangé du Québec ». Et le Québec, c'est une alliance, en fait, de ce brôle blé, concassé, fin, étuvé, avec le plus souvent de la viande, mais on verra qu'il y a d'autres versions, avec des légumes, avec du poisson, avec plein d'autres choses, avec de la viande. Et le pourcentage de brôle et de viande va varier d'une famille à l'autre, et souvent suivant les moyens financiers. C'est en ce sens que c'est un ciment social. Tout le monde mange du Québec, mais il y a même des gens qui mangent du Québec avec 100% de brôle et zéro viande. Mais ils appellent tout ça Québec. C'est en ce sens que c'est symbolique pour cette région-là. Ma passion de la cuisine est arrivée en partie grâce au Québec. Et depuis mon premier restaurant, il y a maintenant assez longtemps, en 99, j'avais voulu ouvrir un bar à Québec. Et actuellement, dans mon dernier restaurant, en fait, j'ai un bar dans lequel je fais des Québec minutes devant les gens. Alors bien sûr, ce qu'on connaît derrière Québec, c'est des boulettes qui se retrouvent farcies, puis ensuite frites. Mais il y a des variétés incroyables de Québec. Et ce qui est important, c'est cette alliance. Alors, si je veux parler d'un Québec en particulier à raconter, c'est la Québec naillée, c'est-à-dire la Québec crue. Peut-être parce que là, on est encore plus dans la spécificité et on est encore plus dans le maniement. Le Québec, c'est un travail de potier, c'est un travail des doigts. Et dans la Québec naillée, en fait, alors à l'origine, bien sûr, c'était des grands pilons dans lesquels on pilait la viande. Et puis ensuite, on rajoutait le blé qu'on pilait avec longuement, avec certaines épices, avec certaines herbes, etc. Moi, pour moi, ma recette la plus simple de la Québec naillée, c'est de prendre une viande d'agneau sans gras, de la hacher, tout simplement, de mouiller un peu de boulgour avec de l'eau, de l'essorer, de le rajouter dessus, de ciseler un peu de menthe, un peu d'oignon blanc frais, d'oignon nouveau ou de cébette, et de malaxer le tout. Et le mouvement est assez extraordinaire. C'est un mouvement avec la paume de la main sur la viande pour que le blé s'incorpore bien dans la viande. Donc on fait ce mouvement longuement, on sale, on poivre.
Comme de la pâte à modeler.
Voilà. Et avec un peu d'huile d'olive, un morceau de pain, un verre d'arak de préférence, ça devient un grand bonheur.
Après l'avoir roulé, vous le transformez en petit puits?
Alors, il y a des gens qui le font, moi non, ce que je fais, c'est que dans ce cas-là, il y a plein de variations, bien entendu. Vous savez, il y a des gens qui rajoutent du piment dessus, d'autres qui rajoutent de la viande hachée, cuite. Il y a plein de variations. Moi, j'aime beaucoup le système dit de la fraque, dans lequel, en fait, on prend les bouchées une par une, et là encore, manipulation avec les doigts, on écrase la viande, ça lui donne une forme très particulière, et comme ça, chacun peut prendre sa bouchée à la main directement. Et la consommer directement.
Alors, vous avez évoqué un mot qui est taboulé. Comment le préparez-vous?
Alors, le taboulé, ce qui est très important, c'est la fraîcheur des ingrédients. Et c'est ce que je fais partout, même à mon restaurant. C'est-à-dire qu'il faut ciseler les ingrédients à la minute et non pas à l'avance. Vous savez, les gens ne savent souvent pas, malheureusement pas, qu'une herbe qui a été coupée deux jours avant, c'est à peu près comme une entrecôte réchauffée au micro-ondes. Donc en fait, il faut prendre des herbes fraîches, essentiellement du persil, de la menthe. Alors le persil, ça sert de base, ça a moins de goût, c'est pas ce qui va donner la saveur, mais c'est véritablement ce qui sert de base, donc le persil plat. Il va falloir ciseler ce persil au couteau, donc il faut quand même un certain talent au couteau. Bien sûr, on se lance pas à faire une taboulée, cette fois je vais le dire en arabe. On se lance pas à le faire avec des ciseaux dans un verre, parce qu'il y a beaucoup de persil à faire. Il faut compter une bonne botte de persil par personne. Il faut ciseler, donc couper très très fin avec un couteau, couper la menthe de la même manière. On met moins de menthe, mais c'est elle qui fait ressortir les saveurs. Là encore, un oignon frais ou une cébette, coupée très fin. De la tomate, on coupe la tomate, et après cela, on rajoute un petit peu de boulerol. Pas beaucoup, c'est pas une grande quantité, c'est pas du tout comme le taboulé français, où on retrouve de la semoule en grande quantité avec quelques feuilles de menthe et de persil. C'est une salade totalement différente. Et d'ailleurs, à une époque, je croyais que les deux avaient des origines différentes. En fait, je croyais que le taboulé était d'origine maghrébine. Et je trouvais ça très normal, puisque taboulé vient du mot tabbala en arabe, qui veut dire assaisonner. Et je me suis dit que deux salades aient le même nom au Moyen-Orient et au Maghreb, n'avait rien d'étonnant. Et puis, j'ai cru comprendre qu'en fait, c'était une invention française. Je ne sais pas d'où elle vient. Nous, de notre côté, on rajoute un tout petit peu de boulgour qui donne un petit grain en mangeant, mais imperceptible. Beaucoup de subtilité dedans. On rajoute du jus de citron en quantité, de l'huile d'olive. C'est l'inverse d'une vinaigrette. Il y a deux fois plus de jus de citron que d'huile d'olive. Du sel. Et on mélange. Et mélanger une taboulée, c'est quelque chose de très particulier. Parce qu'il y a un sens pour mélanger. On ne mélange pas une taboulée comme n'importe quelle salade. Alors
comment on mélange la taboulée?
Eh bien, en fait, on prend un bol rond, on prend une cuillère, ce qu'on ne doit jamais faire avec une salade d'habitude, parce que sinon on écrase tout. Mais là, comme tout est coupé fin, et il faut que l'assaisonnement s'imprègne bien. Et donc, on se met à tourner le bol en même temps qu'on tourne en sens inverse la cuillère. Et c'est ce mouvement-là qui va vous permettre d'avoir
une taboulée bien assaisonnée. Et ça, on fait combien de temps à
l'avance ? Alors, une taboulée, idéalement, se mélange dans les 5 minutes précédant la consommation. Plus longtemps, ça reste bon pendant un moment, mais il y a un moment, le boulgour va gonfler un peu trop. Et là, on est sur quelque chose de moins gourmand.
قالت لي هل تمهمي كلمة ما في مثلها يا.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger
et Karim Haïdar.
سرق الصندوق يا مهمي لكن مفتاحه ما.
Karim Haïdar, qu'est-ce qui vous a appris à faire la cuisine?
J'ai toujours adoré la cuisine, donc j'ai toujours traîné dans les cuisines, cuisine de ma grand-mère, cuisine de ma mère, à regarder ce qui se faisait. Mais étonnamment, c'est arrivé d'abord quand je suis arrivé en France et où j'ai découvert la cuisine française. Et j'ai été très intéressé par la cuisine française et les autres cuisines qu'on trouvait déjà en France, notamment la cuisine asiatique. Je me suis mis à cuisiner et j'ai commencé à apprendre sur le tas l'essentiel. Et c'est le jour où j'ai décidé, sur un coup de tête, d'ouvrir un restaurant, que je suis retourné au Liban en me disant, au fond, je vais faire connaître la cuisine de mon pays, de mes origines. Et j'ai demandé à une de mes tantes...
Qui était dans quelle région ?
Qui était à Beyrouth, mais qui est de la partie paternelle de ma famille, donc qui vient de la Beka, qui vient d'à côté de Baalbek. De me montrer 2-3 plats, parce que, et notamment les kebbés. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire la cuisine petit à petit.
Karim Haïdar, est-ce que vous voyez aussi, du point de vue du nouvel arrivant, la cuisine comme un élément d'intégration?
Oui, doublement. D'abord parce que je pense fondamental, où qu'on aille, pour comprendre les gens et pour apprendre à vivre avec eux, de manger comme eux. Je pense qu'un des éléments qui empêche, et beaucoup, l'intégration des gens des immigrés, finalement, c'est le refus de goûter la cuisine du pays d'accueil et de vouloir s'obstiner à continuer à ne manger que leur cuisine. Et plus encore parce que on ramène notre cuisine avec nous quand on est immigré, ce que je suis. Mais quand on s'assied à table avec la population du pays d'accueil et qu'on mange leur cuisine, ils s'intéressent à la nôtre. Donc quelque part, on fait connaître aussi ce que nous sommes. Et c'est tout l'intérêt des rencontres entre les peuples, c'est de faire connaître et de faire aimer ce qu'on est, de découvrir l'autre, et ensuite de mélanger, pas de fusionner, pas dans le sens de fusionner les cuisines, mais justement d'apprendre l'un de l'autre et de transformer les choses. Et il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de transformation qui se sont passés, parce que la France est quand même une terre très ouverte pour cela, pour la cuisine. L'Angleterre accepte toutes les cuisines, mais la France, je trouve, les intègre. Et moi, j'aime bien ce côté intégration des autres cuisines. Et j'aime bien qu'aujourd'hui, on se retrouve très souvent à manger en France comme on mange dans nos pays, c'est-à-dire l'équivalent de notre mésée, de notre petit partage, de petite bouchée, comme quoi on est arrivé à faire passer un message. Et en même temps, on a appris énormément. Le partage de la nourriture, c'est véritablement, je crois, le point de départ de la rencontre entre les civilisations.
Karim Haïdar, ce Aïch, cette vie, on est parti des Kébés libanais. Si l'on marche vers l'Occident et vers le coucher du soleil.
Et bien, en fait, on va démarrer avant, parce que avant ma région, il y a les pays du Golfe. Et les pays du Golfe ont le Aïch. Et étonnamment, sur des distances très très proches, ils ont une divergence incroyable. C'est-à-dire les Émirats arabes unis, le Qatar, etc. Pour eux, le haïch, c'est le riz. C'est véritablement la base de l'alimentation, le riz. Et j'étais très surpris.
Ça, c'est la route de la soie, ça.
Voilà. Et puis, c'est la proximité de l'Inde, de l'Iran. D'ailleurs, c'est les mêmes techniques de cuisson de riz. Ce serait bien vu, d'ailleurs, quand on a les mêmes techniques de cuisson, de devenir amis. Puisqu'on mange un petit peu la même chose. En Arabie Saoudite, étonnamment, c'est le pain qu'on appelle le haïch. Et je me suis toujours demandé pourquoi, parce que c'est vraiment la même région. Mais au fond, on se rappelle que l'Arabie Saoudite donne des deux côtés, c'est-à-dire donne juste en face de l'Égypte d'un côté, et finalement un pays... Quand on regarde une carte, l'Arabie Saoudite est un pays très moyen-oriental en partie, et notamment dans la partie où il y a la Mecque, Médine. Donc c'est une partie qui est assez proche de l'Égypte, de la mer Rouge et de l'Égypte. Et donc là, on passe du riz au pain, le haïch, jusqu'à l'Égypte. Et d'ailleurs en Égypte, une anecdote très importante, il y a un dessert étonnant qui s'appelle haïch saraya. Haïch, donc voilà, la vie, saraya le sérail. Et en fait, ce dessert est fait avec un pain européen, pour le coup. Et des quelques recherches que j'ai pu mener, alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je n'en sais rien, mais je le raconte quand même pour ce que ça vaut. En fait, les ambassadeurs qui venaient au sérail avaient leur boulanger qui leur faisait du pain. Donc tous ces ambassadeurs européens avaient des pains européens. Et le reste de ces pains européens servait à faire ce dessert qui s'est appelé haïch saraya, donc le pain du sérail, comme une espèce de pain perdu. En fait, c'est le pain. La tradition du pain perdu est étonnante. Elle mériterait un voyage à travers le monde. Hein. Je trouve que c'est extraordinaire les différents pains perdus.
J'aimerais avoir votre recette de pain perdu.
Alors en fait, ma recette de pain perdu me vient de ma femme lorsqu'elle est venue chez vous. Vous l'a donné. Moi, je vais vous donner une recette, en fait, de pain perdu un petit peu différente. Le pain libanais, qui sèche très vite quand on le sort des sachets et qui devient cassant, ce pain, on l'utilise dans deux plats, salés cette fois-ci. Donc, quelque part, c'est le pain perdu salé, un peu inhabituel. Donc, il devient très sec et il faut le réhumecter. Et de ce fait, soit on en fait une salade. Et cette salade, c'est la fattouche. Elle s'appelle fattouche, ça commence le mot fatta, ça veut dire à émietter. Donc bien sûr, on émiette ce pain qui a durci, qui est pas très agréable à consommer, et on le mélange dans la salade. Donc l'assaisonnement de la salade va l'attendrir à nouveau, et on va pouvoir le reconsommer. On donne une deuxième vie au pain de cette manière-là. Et la recette dont je voulais vous parler, c'est la fatté. Et la fatté, c'est pareil, même base de mots, fatté, à émietter le pain. Et là, on le fait avec plein de produits. Donc, c'est un vrai plat, un plat chaud, généralement à base de pois chiches, de bouillon de pois chiches, sur lequel on rajoute du pain, du yaourt. Et généralement, on met ce pain, d'ailleurs, qui est très dur, on le met en dessous de tout. Comme ça, il se réhumecte complètement et on peut le manger. Donc, pareil, deuxième vie. Ma recette de la fatté que je préfère, c'est la fatté d'aubergine, fatté de Batenjain. Et c'est une recette que j'aime beaucoup, que j'aime d'autant plus que j'ai découvert au bout d'un moment que ma femme m'a rencontré grâce à cette recette-là. Et en fait, il s'agit de prendre une aubergine, donc de la couper en gros cubes. Comme souvent, avant de frire une aubergine, on la sale et on la laisse égoutter pendant une nuit ou quelques heures. Puis après, on la passe simplement dans un bain de friture. On débarrasse l'aubergine, on fait revenir un petit peu d'oignons, d'ail, de tomates, de feuilles de basilic à côté. Et on prépare une sauce toute simple avec un petit pot de yaourt, une cuillère de tahiné, la pâte de sésame, ingrédient mythique de chez nous, un peu de vinaigre de vin. Et on pose cette aubergine frite avec cette petite poêlée d'aromates, le yaourt par-dessus et on prend ce pain, qui généralement est le pain abîmé, mais de nos jours, on n'utilise plus le pain abîmé. Donc, on fait frire du pain ou griller du pain qu'on va rajouter dessus pour manger ce plat qui est un véritable délice.
والهيطة جنب الهيطة الناس دي بلاوي كلينجي عايزين خلينا شقليطة
يا شنجي
والأكل بتاعنا براوة أحسن من أكل الباشا يوم فاصوليا وبقلاوة يوم ملوخية وبقاشا.
Il faut savoir qu'il y a une frontière fondamentale en Afrique du Nord qui est la ville de Sirte en Libye. La ville de Sirte est la frontière entre les pays de riz et les pays de couscous, de semoule. Donc le riz s'arrête à Sirte et la semoule commence à Sirte. Et cette semoule-là, dans une version particulière qu'on connaît, qui est peut-être celle qu'on connaît le moins en Europe, qui est la grosse semoule, qu'on va appeler berkoukes ou hamsa en fonction des pays, et je crois qu'elle a encore d'autres noms, qui ressemble beaucoup à la frégola sarde, en fait, s'appelle le aïch aussi dans ces régions-là. Et rapprochement incroyable. Et c'est là que j'ai découvert la beauté de rapprocher les cuisines arabes, par la langue bien entendu, mais aussi par des découvertes comme celle-ci. Ce berkoukes, cette grosse semoule qu'on retrouve au Maghreb, est arrivé jusqu'au Liban, en Syrie et en Palestine. En Palestine, elle s'appelle maftoul parce qu'on la roule à la main, maftoul veut dire rouler. Et au Liban et en Syrie, on l'appelle mourrabillé. Et mourrabillé veut dire venant du Maghreb. Donc là encore, on raconte l'histoire de ces produits qui passent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et l'ouverture des frontières, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la cuisine, puisque, et ça rejoint ce que vous étiez en train de dire à propos de l'importance de la cuisine dans l'accueil, c'est que en fait, toutes les cultures passent à travers la cuisine et on comprend mieux les autres. Et les cuisines du monde arabe ont énormément appris, que ce soit de la partie espagnole, ont donné à l'Espagne, ont récupéré de l'Espagne, ont donné à l'Empire ottoman, donc aux Turcs, ont récupéré d'eux, les Vénitiens, les Grecs, mais aussi les Africains. Il y a eu des remontées. On se rappelle que le Soudan est un pays arabe avec une cuisine très très particulière qui a beaucoup donné, que même le sultanat d'Oman avait des colonies à Zanzibar, en Tanzanie, donc ont bien sûr repris des habitudes alimentaires et ont créé une culture différente. Et ce métissage, cet assemblage dans les cuisines qui fait, je crois, la richesse des mondes.
Si l'on dépasse le rivage des Sirtes pour aller jusqu'au colonnes d'Hercule, là c'est le règne du blé dur.
Tout à fait. Là-bas, c'est véritablement, on est sur le blé dur et la semoule qu'on va travailler à partir du blé dur et ce couscous qui est quelque chose de vraiment extraordinaire, qui vient rappeler aussi, si on réfléchit, la continuité qu'il y a. Parce que là, on a vu une continuité du monde arabe avec le mot Aïch, mais avec des différences de produits qui avaient le même nom. Et c'est ça que je trouvais très intéressant dans l'académie, parce qu'on s'est posé la question, pourquoi Académie de cuisine du monde arabe, et c'est quoi le monde arabe? Et on a dit, c'est simple, c'est la langue. C'est facile, la langue. Et donc, à partir de la langue, on va là-dessus. Alors, bien sûr, il y a ces divergences. Mais il y a aussi des continuités incroyables. Et notamment, cette continuité du blé. Dans la plupart des pays, notamment les pays européens, le blé sert essentiellement à faire de la farine, qui fait des gâteaux, ou du pain. Mais on le cuisine rarement. En France, on ne cuisine quasiment pas le blé autrement que sous la forme farine. Or, dans l'ensemble du monde arabe, le blé est un élément essentiel de la nourriture hors farine. Bien sûr, on fait de la farine, on fait du pain, on fait des gâteaux à base de farine. Mais quand on est dans le Golfe, on a un plat qui s'appelle le Héris, qui est du blé cuit avec de l'agneau. Donc on met le blé, on met l'agneau dans des grosses marmites, et puis on cuit pendant des heures, et ça devient une espèce de purée d'agneau au blé, qui pourrait faire penser, mais j'ai lu ça dans Astérix, je ne sais pas si c'est vrai, quand Astérix est légionnaire, il mange un truc à peu près pareil, une espèce de bouillie de blé avec un peu de viande dedans. Donc, c'est un petit peu ce plat-là. Après, quand on se rapproche du Moyen-Orient, on est avec le brol dont on a déjà parlé, un blé qu'on a travaillé autrement et qui sert véritablement de base. Il faut savoir que dans nos pays, le brol gros servait d'équivalent au riz. En fait, on utilisait très très peu le riz. Et c'est l'arrivée du riz basmati qui est arrivé en fait d'Inde, d'Iran, via les différents pays du Golfe, qui a supplanté totalement le boulgour, qui est devenu pendant un long moment le produit du pauvre, le riz faisant office, un peu faisant office de ce qui est devenu le pain blanc pour le pain noir, quoi. Et après, quand on continue sur cette route, on se retrouve avec le blé dur et le couscous, la semoule, qui se retrouve un petit peu partout. Et je trouve très beau, cette symbolique, d'ailleurs je la trouve à tel point belle que, en discutant tous ensemble, on a décidé que le symbole de l'Académie du monde arabe, de cuisine du monde arabe, serait un épi de blé avec des couleurs différentes aux graines pour symboliser les différentes cultures et les différents pays.
Merci beaucoup Karim Haïdar, je vous laisse retourner chez Askini, qui est votre restaurant à Paris. Nous allons voyager et accueillir la cuisine de tout ce monde arabe.
Faites attention, vous. Hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était « On ne parle pas la bouche pleine », une émission d'Anna Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son est d'Olivier Dupré et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous invite à la podcaster, c'est gratuit et très agréable. Dans quelques instants, le journal sur France Culture.